Gilles Anouilh, vous avez écrit un livre qui s'appelle « Les pauvres sont l'Église » et qui sont une conversation avec le père Joseph Wresinski, fondateur du mouvement ATD Quart Monde. Comment vous avez rencontré le père Joseph ?
J'étais maître de conférence à Sciences Po, après mai 68, parce qu'il voulait changer un peu les maîtres de conférence et j'étais journaliste à l'époque. Et dans la troisième année où j'ai été maître de conférence, j'ai eu un de mes étudiants qui s'appelait Louis Jouin Lambert et qui m'a demandé si je pouvais lui mettre le pied à l'étrier dans le métier de journaliste. Et je me suis un peu démené, mais j'avais pas mal d'amis dans le métier. Et je lui ai trouvé un stage à l'AFP, l'agence France Presse. Et je lui ai téléphoné, j'étais tout content de moi. Et je lui ai dit, oui, Louis, voilà, vous avez un stage à l'agence France Presse. Il m'a dit, merci mille fois, c'est très gentil, mais je vais faire autre chose. Je vais m'occuper des gens des bidonvilles. Il dit, des bidonvilles, quoi? Qui sont-ils? Est-ce que ce sont des Maghrébins? Des gens d'Afrique du Nord? Est-ce que ce sont des Noirs? Des gens d'Afrique noire? Il m'a dit, pas du tout, c'est des Français comme vous et moi. Je pensais, moi, que tous les gens qui étaient dans les bidonvilles étaient plutôt des immigrés. Il m'a dit « Oui, oui, ils sont tous Français, ils sont des Français, et il y en a des milliers, des dizaines de milliers, peut-être même des centaines de milliers. » J'ai trouvé ça intéressant parce que j'étais quand même à l'époque journaliste dans une revue qui c'était réalité. C'était mensuel, donc c'était pas événementiel, ça essayait d'analyser des choses qui nous paraissaient intéressantes dans l'évolution de la société. Donc j'étais très surpris parce qu'il m'a dit « Oui » et je me suis dit « Je vais aller voir qui est ce père Joseph Wresinski qui, parce qu'il m'avait fait allusion. » Bien sûr, au père Joseph Wresinski. Et je l'ai rencontré. Le père Joseph Wresinski était comme une sorte d'étoile. Et quand il y avait des astéroïdes qui passaient à sa portée, disons des êtres de pas trop mauvaise volonté, il leur mettait la main dessus. Il est l'être le plus extraordinaire que j'ai rencontré. Je dirais d'une façon plus théologique, en me référant au théologien jésuite qui s'appelle Joseph Moins, il y a une expression que j'aime beaucoup, il dit « Jésus, c'est l'homme qui venait de Dieu ». Moi, je dirais que le père Joseph, c'est l'homme qui venait du Christ, parce que c'était le Christ, c'était un homme qui était pénétré par le Christ, par la misère du Christ. Pour lui, le Christ commençait entre les bergers, avant sa naissance. Les bergers, c'est-à-dire des gens qui étaient des exclus de l'époque, enfin des rejetés. Vous savez qu'ils n'avaient même pas le droit d'ester en justice. Et il a terminé sa vie, Jésus, entre deux larrons, d'autres exclus. Il était tellement fascinant, et son message était tellement surprenant, qu'on ne pouvait pas ne pas se laisser impressionner. Donc, comme alliés, on appelle les alliés les gens qui ne sont pas datés des Quart-Monde, mais qui essaient de donner un coup de main. J'ai fait quelques articles pour lui, parce qu'il me demandait, par exemple, droit social. J'avais demandé un long article sur le problème de l'exclusion. Et donc, j'allais le voir, on discutait du contenu. J'écrivais, d'habitude, ça passait comme une lettre à la poste. D'autant plus qu'il avait écrit à l'époque, pas des livres, mais il écrivait beaucoup dans la revue du Quart-Monde qui s'appelait Igloo. Igloo, ce sont les bidonvilles, enfin les espèces de cabanes qui se trouvaient dans le bidonville où il habitait, à Noisy-le-Grand, où il était rentré le 14 juillet 1956 et il est resté 12 ans. Et puis un jour, au bout d'un certain temps, je me suis dit, mais enfin quand même, on pourrait faire quelque chose de plus important, on pourrait faire un livre. Et j'avais déjà fait deux ou trois livres d'entretien avec des hommes politiques ou des économistes. Je lui ai proposé et il m'a dit, au bout d'un moment, il a réfléchi, il a fini par me dire d'accord. Et voilà comment ça a commencé.
Alors vous nous dites que vous êtes un familier de la pensée de Joseph Wresinski. Est-ce que vous pouvez nous donner des points saillants de la pensée de Joseph Wresinski qui vous ont particulièrement frappé, qui vous ont nourri et qui sont pour vous encore des piliers?
C'est comme j'ai déjà dit, c'est le Christ. C'est le Christ souffrant, le Christ misérable. Il y a d'ailleurs un autre jésuite qui a écrit il n'y a pas très longtemps un livre qui s'appelle « Jésus misérable » où il a repris et synthétisé la christologie du père Joseph, c'est-à-dire pour lui le Christ c'est les pauvres et les pauvres sont l'Église. Et si l'Église n'est pas l'Église des pauvres, c'est plus l'Église.
Alors justement, le livre que vous avez écrit avec le père Joseph s'appelle « Les pauvres sont l'Église ». C'est vous qui avez décidé du titre? C'est
non.
Lui?
Non. Après avoir interviewé le père Joseph pendant 12 fois, 3 heures en 79, donc ces entretiens ont été tapés à la machine, et puis là-dessus j'ai été nommé au Japon pour la Commission européenne, je n'étais plus journaliste à l'époque. Je me suis dit, j'ai pris mon temps, on me dit, je mettrai les choses honnêtes, les épreuves honnêtes, quand je serai installé au Japon, parce que vous savez, le Japon c'est un autre univers. Et puis entre-temps, Alvin DeVos, qui était une de ses collaboratrices, une Hollandaise remarquable, qui vit toujours, s'est saisie du manuscrit et a commencé à y travailler. Et un jour, on m'a dit, tu sais, enfin on m'a téléphoné de Paris, on m'a dit, le livre va paraître, Les pauvres sont l'Église. Et du coup, là-dessus, j'ai fait une petite présentation du livre, d'une page et tout. Mais non, c'est pas moi le titre, mais c'est lui. Je vais vous dire un exemple de ça. Je l'ai interviewé sur beaucoup de choses, de la théologie, de la sociologie. Et je lui ai parlé, bien sûr, de Vatican II. Ça ne retenait pas son attention, en tout cas pas lorsque je le rencontrais. Ce qui l'intéressait, c'était que Jean XXIII avait dit au début du concile, l'Église est l'Église des pauvres. Et il m'a dit textuellement, c'est ce que j'ai retenu du concile. Donc, et en plus, il disait très souvent, je suis un homme d'action, je ne suis pas un théoricien, je ne suis pas un penseur. Ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, parce qu'il réfléchissait beaucoup. Mais c'est ça qui l'a frappé, et d'où le titre « Les pauvres sont l'Église ».
Il disait entre autres, on a désavoué les pauvres et il faut les réavouer. Comment est-ce qu'il parlait de cela ?
Il allait même beaucoup plus loin. Il dit, je leur ferai monter les marches du Vatican, de l'Élysée. Il avait organisé d'ailleurs très tôt, très vite, depuis son bidonville, des colloques, des conférences à l'UNESCO pour faire connaître cette population. Parce que ce qui l'obsédait, c'est qu'on prenne les pauvres pour des cas sociaux, isolés.
Alors qu'ils sont semblables à nous. C'est non ça aussi ce qu'il disait, non ?
Non seulement ils sont semblables à nous, mais pour lui c'est un peuple. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas isolés, ils vivent pour essayer de retrouver un peu de chaleur humaine et de solidarité, parce qu'il y a une grande solidarité. Donc il voulait montrer que c'était un peuple, que ce peuple venait depuis des siècles et des siècles. La cour des miracles dans la France d'autrefois. Donc, c'est pas en faisant de l'homéopathie avec des petits remèdes passagers, locaux, c'est qu'il fallait traiter ce peuple comme un peuple. Et ce qui l'a frappé aussi, c'est qu'il est allé très vite voir ailleurs. Voir d'abord dans les pays européens, mais il est allé en Inde, il est allé au Brésil, il a rencontré Don Helder Camara d'ailleurs, il est allé aux États-Unis, voir les slums de New York. Et tout ça le confortait dans cette idée qu'il y avait finalement dans toutes les sociétés des exclus. Il y en a qui le sont, regardez en Inde, les Dalits, qui sont exclus pour des raisons religieuses, mais probablement il y a d'autres sources. Le Japon dont je vous parlais, il y a les Burakumines. Mais je pense que ça va beaucoup plus loin. Je pense qu'il y a une tendance, pour ne pas dire une tentation, dans chaque société, de repousser au plus bas de l'échelle une partie de la population pour que celle qui est un peu moins pauvre se sente finalement un peu moins mal parce qu'elle n'a pas atteint cet échelon si bas. Donc voilà, c'était ça sa pensée. Et puis le deuxième point très important, quand il est arrivé au camp de Noisy-le-Grand, il y avait des milliers et des milliers d'exclus, de pauvres. Et ce camp avait été créé par l'abbé Pierre. Il y avait dans les années épouvantables, les années 54, quand il y a eu cette froid épouvantable où l'abbé Pierre, il avait un grand respect d'ailleurs pour l'abbé Pierre, a créé des bidonvilles, enfin bon, pour recueillir ces gens qui étaient dans la rue, au moins qu'ils aient un toit, puis leur donner de la soupe populaire. Et bien quand il est arrivé, le père Joseph, à Noisy-le-Grand, très vite, il a supprimé la soupe populaire. Il leur a dit, tu dois travailler pour gagner ta croûte. Même si tu n'auras pas beaucoup d'argent, c'est ton travail. Et au lieu de faire la soupe populaire, ça ne veut pas dire qu'il ne partageait pas, il partageait tout ce qu'il avait. Mais il a créé des ateliers pour les enfants, des bibliothèques des rues. Pour les femmes, il a ouvert un salon de coiffure. Enfin, ouvrir un salon de coiffure pour qu'elles n'aient pas honte d'elles-mêmes. Voilà ce que fait ATD aussi. À l'heure actuelle, les volontaires, ils sont immergés dans les populations et ils les animent pour les aider à s'en sortir, mais ils ne les sortent pas tout seuls. Enfin, je veux dire, ce n'est pas eux qui les sortent, ils les animent pour qu'ils s'en sortent.
Ils sont avec eux.
Absolument.
Ils ne sont pas au-dessus, ce n'est pas se pencher d'une façon paternaliste.
Pas du tout.
On peut dire que le père Joseph voulait vivre, et c'est ça ce qu'il a voulu donner à son mouvement, vivre avec les pauvres.
Absolument. Et parce qu'il se considérait comme un pauvre lui-même. Alors il faut connaître un peu son histoire. D'abord, père polonais, mère espagnole. Et comment se sont-ils retrouvés ? C'est qu'en 1917, au moment de la guerre, ses parents étant étrangers, étaient considérés comme, vous savez, les étrangers pendant la guerre, ça doit être des espions probablement, hein. Et donc, on les avait mis dans une espèce de dépôt pour gens suspects. Et puis, quand la guerre... Et lui, il est né en 17. Et quand la guerre est terminée, ils ont essayé de vivre, de survivre très mal, à Angers. Désespéré d'une certaine façon, son père a fini par partir. Sa mère est restée là. Le père Joseph a donc été un enfant pas de l'assistance publique, parce qu'en social, il avait sa mère. Et l'assistance publique, il n'aimait pas qu'on mette, et il a raison, qu'on place des enfants à assistance publique. Donc il a vécu une enfance extrêmement malheureuse, il le raconte dans le livre. Et très vite, ensuite, quand il a, je crois qu'il n'a jamais passé son bac, il a dû voir le brevet élémentaire, il est devenu ouvrier, notamment dans une fabrique de peinture. Il était ouvrier boulanger aussi. Il est rentré à la JOC, la Jeunesse Ouvrière Chrétienne. Et très vite, il a dit « j'ai envie d'être prêtre ». Et donc, il est rentré au séminaire et il est devenu prêtre. Et un jour, son évêque lui a dit, sachant qu'il était très attaché, très attiré par les problèmes du quart-monde, qu'on n'appelait pas encore le quart-monde à l'époque, lui a dit, ben écoute, si tu veux, tu peux aller au camp de Noisy-le-Grand, où il est arrivé le 14 juillet 1956.
À la suite de ce long entretien qui a duré plusieurs mois, donc avec Joseph Rezinski, j'imagine que votre vie a dû aussi être un peu bousculée par tout ce que vous avez entendu, et peut-être encore plus par la rencontre avec le père Joseph.
Il y a un théologien qui s'appelle Courtney, un professeur de théologie, et qui a dit « If you choose to read this book, be prepared to be changed ». Autrement dit, si vous décidez de lire ce livre, attendez-vous à être changé.